Panique urbaine, une émission d'un collectif bruxellois. Qu'est-ce qu'une musique urbaine ?
Qui en sont les acteurs ?
Comment les artistes ou les structures qui les soutiennent résistent-ils à la commercialisation et à l'uniformisation ? Une émission proposée par l'équipe Djiboutique en partenariat avec Alter Musica, Web Radio Parisien.
Bienvenue pour cette seconde émission autour des musiques urbaines à Bruxelles. Émission menée en partenariat avec la web radio parisienne Alter Musica, radio cosmopolite, et qui nous a proposé donc de faire ces deux séries d'émissions. La première était consacrée au hip-hop belge, et on a pu rencontrer des acteurs importants de la scène à Bruxelles. Pour cette deuxième partie consacrée aux musiques urbaines, on a décidé de se concentrer sur d'autres styles de musique plus larges et on a choisi un petit échantillon géographique de Bruxelles qui nous a semblé représentatif dans le quartier des Marolles, quartier populaire qui est aussi en plein changement. On a choisi trois salles, le Steaker La Patte, le Coiffure Liliane et le Recyclard, qui selon nous donc étaient représentatifs. Pour parler de ça avec nous, nous avons invité Philippe Delvaux-Sal. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Toi tu t'occupes d'une revue qui est éditée à la médiathèque de Bruxelles, qui s'appelle La Sélec.
Oui, c'est ça.
Et avec nous aussi David Le Simple.
Bonjour.
Bonjour David, qui propose des événements aux ateliers Klaus, s'occupe également d'un label. De toute façon, on va avoir l'occasion de parler aussi un peu plus de vos activités et du rôle que jouent les salles où vous travaillez, les lieux où vous travaillez dans les musiques urbaines à Bruxelles. Peut-être pour commencer, est-ce que vous... qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot musique urbaine, que parfois en France aussi on appelle musique actuelle, mais qui correspond plus souvent à un système de subventionnement. En tout cas, c'est deux termes qui ont été créés par les opérateurs culturels, pas forcément par les artistes eux-mêmes. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque ?
Juste sans prendre toute l'émission, la médiathèque, elle a 50 et quelques années, et ça a commencé en 56. Du temps du micro-sillon et par rapport à des gens qui voulaient rendre disponible par le prêt plutôt que par l'achat la musique, et c'était clairement de la musique classique à l'époque sur support vinyle. Et puis ça s'est complexifié au cours du temps, il y a eu le jazz et puis la chanson française, c'est peut-être la chanson française puis le jazz, mais puis les musiques du monde, le rock, la pop, etc., d'autres supports. Et aujourd'hui, c'est clair que il reste des classements. Enfin, il y a, disons, les disques qui rentrent doivent avoir une cote, doivent être encodés dans la base de données pour qu'on puisse les retrouver et tout. Et donc, ils ont une cote dont la première lettre traduit le fait qu'ils sont plutôt jazz, plutôt rock ou plutôt liés aux musiques afro-américaines où on mélange dans une même collection. C'est relativement intéressant. Ce qui va du blues, le hip-hop, le reggae, la soul, enfin tout cet héritage noir américain. Et je vais bientôt finir. Là où c'est intéressant, c'est évidemment que parfois ces classements posent des problèmes, deviennent inapplicables. Enfin, il faut bien classer un disque au moins mauvais classement, mais il est entre le jazz et le rock, entre le hip-hop et la chanson française. Enfin, et pour moi, parfois, il faut classer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la musique. Et c'est toujours... enfin, moi, j'aime beaucoup les gens qui sont en porte-à-faux, qui sont un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Qui...
Et justement, est-ce que ce terme de musique urbaine, il rassemble pas aussi
Oui, mais c'est une étiquette qui peut être utile et qui est fausse en même temps. Une de plus. Et je crois que si on s'y arrête, ça peut faire plus de mal que de bien. Si on ne s'y arrête pas, ça ne porte pas trop à préjudice. Je pense juste Il y avait un festival dans une des salles dont on va parler plus tard à Recyclard, qui est le festival Crac. Donc c'est lié à un label gantois qui organise aussi des concerts en Flandre et à Bruxelles. Et la spécificité de ce festival-là, c'est de mêler allègrement, d'une part, les générations de musiciens, des papis et des gars de 20 ans, et les types de musique, donc de passer de trucs super noise à de la pop, à du rock, à du free jazz, à de la musique électronique beaucoup plus quasi ambiante, plus calme et tout. Et dans le registre vieux papy, il y avait deux vieux improvisateurs liés au free jazz qui jouaient à la fin de cette édition-ci et qui, à la fin de leur concert, font une espèce de mini petit discours que ça, un peu ému de l'accueil qui leur était réservé, disant ce qui est bien dans ce festival, c'est que on ne met pas la musique dans des boîtes, enfin dans des... Et pour moi, ça, c'est le plus important, quoi.
On va revenir sur ce festival, puisque dans notre reportage sur le Recyclard, il y a une partie consacrée au crack. Et toi, David, qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme-là, aussi
en tant qu'étiquette, c'est une dénomination que je ne connaissais pas, en fait. Enfin, tu la compares à la dénomination musique actuelle ou musique vivante, qui est plutôt celle que j'utilisais. Ouais. Enfin, après, sur, encore une fois, des trucs d'étiquette et des trucs très institutionnels. Et c'est vrai que musique urbaine, pour moi, ça fait plutôt référence au hip-hop que vous avez fait dans la première émission. Mais c'est vrai que ces deux mots, musique et urbaine, ensemble, c'est quand même vachement intéressant, parce que la question de comment les acteurs de la musique vivante arrivent à occuper une ville, c'est un truc qui est passionnant. Bruxelles est quand même une ville que je trouve très, très morcelée, de quartier en quartier, et que l'occupation de la musique dans la ville se fait d'abord à l'intérieur d'un quartier. Là, vous parlez des Marolles, mais c'est vrai que Saint-Gilles est un quartier qui est vivant aussi, mais qui est vivant vraiment à l'intérieur. On attend que ça sorte un peu de soi-même, mais pour l'instant, il y a des vraies vies musicales à l'intérieur de petits morceaux de ville. Mm-hmm. Et c'est un truc qui est intéressant à voir et qui souvent correspond aussi à des intentions musicales différentes.
Et là, on va écouter le reportage qui a été fait au Recyclard, donc réalisé par Emeric Lehambre et Chloé Despax, où on va retrouver ces problématiques. Donc le Recyclard, lieu important, rassembleur sur Bruxelles.
Des styles musicaux ou de ce qu'on a envie de promotionner ou de mettre en avant à certains moments, c'est toujours se dire voilà, tiens, il n'y a pas ça à Bruxelles, bah alors nous on va le faire parce qu'apparemment il y a une demande, il y a un public pour, etc. Donc c'est un petit peu en réflexion, en évolution constante. Comme les musiques bougent très, très, très rapidement, que les publics bougent aussi beaucoup et de plus en plus. On continue à jouer ce rôle de pouvoir directement répondre d'une manière très flexible à des changements musicaux. C'est pour ça qu'on aborde énormément de styles différents, qu'il y a une ouverture totale à tous les styles, tout en tenant compte aussi des contraintes du lieu. Parce qu'un concert de musique classique ne peut pas avoir lieu ici, tout simplement parce qu'on entend les trains. Et qu'il y a des musiques qu'on ne fait pas, peut-être parce qu'aussi certaines musiques sont déjà bien représentées dans d'autres lieux aussi. Et donc on propose plutôt soit des musiques qui sont un peu méconnues, donc là je parlerai plutôt un peu de la musique expérimentale ou la musique plus improvisée. Là on a encore fait un concert dernièrement avec... trois artistes, un artiste australien, trois artistes qui jouaient ensemble, un hollandais, un italien et un norvégien. C'est tout de l'improvisation. Voilà, c'est pas évident pour eux de trouver des lieux dans des villes pour jouer. Et Recyclard a toujours été un refuge pour ce type d'artistes qui sont toujours un peu voilà, des outsiders, c'est qui s'adressent un peu à un public plus curieux ou parfois plus pointu. Et donc j'ai toujours aussi essayé de respecter un équilibre entre une musique pointue avec aussi des moments de musique beaucoup plus accessible. Voilà, parce qu'on a la chance d'être un lieu subsidié par l'État et on n'est pas un lieu commercial qui devons faire du bénéfice. Donc on a des budgets qui nous permettent justement de prendre des risques et de faire découvrir des choses à un public et de donner une chance à des artistes de pouvoir s'exprimer. Moi, ce qui a toujours été important dans ma démarche, c'était le long terme. Donc c'est essayer d'arriver, je crois qu'on commence à y arriver seulement maintenant, c'est de pouvoir dire au public, ben, à Recyclard, essayez de faire confiance à la musique et venez voir des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Donc c'était vraiment quelque chose où on s'est dit, bon, on va pas tout de suite essayer de faire des choses qui marchent et d'attirer plein de gens, c'est d'essayer de construire quelque chose sur le long terme, au niveau de la qualité, au niveau de la découverte, au niveau de la surprise. Et on a aussi une manière assez particulière de fonctionner, donc on travaille beaucoup en coproduction avec des organisations extérieures, comme Stellar par exemple, comme Darko, qui viennent développer leur vision de la musique ici. Et donc moi je trouve ça très enrichissant, moi en tant que programmateur, d'être en contact avec d'autres personnes qui ont d'autres publics, qui ont d'autres visions de la musique, qui connaissent d'autres choses que moi. Et donc du coup on est comme une équipe de programmateurs toujours en mouvement, qui donnons une identité commune à ce lieu. Et de cette manière-là aussi, on a réussi à brasser des publics, parce que voilà, chaque organisateur, comme Stellar par exemple, qui est fusque au niveau de la musique à Recyclard, parce qu'on a, on est actif aussi au niveau d'autres disciplines, mais au niveau de la musique, c'est impossible pour nous de dire quel est notre public, parce que notre public est vraiment différent en fonction du type de soirée, de concert, de musique. Voilà, je ne peux pas dire quel est notre public. C'est un public qui vient de Bruxelles, qui vient parfois d'ailleurs en fonction des artistes. C'est un public très large. Disons qu'au début, à Recyclard, on était beaucoup plus attentif au public du quartier au niveau de la musique. Mais on a remarqué que nos essais d'essayer de toucher le public du quartier, donc plutôt un public défavorisé, plutôt un public d'origine marocaine ou alors purement défavorisé, c'était extrêmement difficile de les faire venir ici, aussi de savoir ce qu'ils avaient vraiment envie. Et on n'avait pas envie de tomber dans les clichés qui sont souvent utilisés, voilà, pour un public comme ça. Il faut plutôt une musique fusionnée, avec voilà, plutôt du hip-hop ou de la reggae ou de la musique du monde. C'est plutôt ce type de musique-là qui va les toucher, etc. Bon, on a un petit peu tout essayé, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et entre-temps, le quartier a vachement évolué aussi, il a vachement changé. On ne peut plus dire, voilà, le public de ce quartier-ci, c'est qui ? Aucune idée, il y a un peu de tout, quoi. C'est un quartier extrêmement mélangé, très représentatif de Bruxelles, où tu as des gens qui n'ont pas un bal, tu as des gens riches, tu as des gens un peu de toutes les cultures. Donc, voilà, au niveau de la musique, on a vraiment arrêté de cibler ce quartier. On travaille avec le public du quartier via d'autres disciplines. Mais en fait, quand on a vraiment commencé à développer une ligne musicale, on n'avait pas de budget nous-mêmes, on n'avait pas de budget de programmation. C'est venu un peu plus tard. Et donc, on a développé cette formule de coproduction où on mettait la salle à disposition à des organisations qui organisaient des soirées. Et donc, c'était souvent à l'époque, donc je parle début des années 2000, c'était beaucoup de musique électronique. Parce qu'à Bruxelles, la musique électronique était surtout représentée dans des clubs comme le Fuse, où l'entrée était chère, où les consommations étaient chères. C'était vraiment un club commercial. Il y a eu des très bonnes choses. Mais pour être plus concret au niveau de la musique, la drum and bass, par exemple, a explosé en Belgique plus ou moins fin des années 90, début 2000. Ça a commencé un petit peu à se faire connaître par un public plus large. Et on a eu des organisateurs de soirées drum and bass qui ont commencé à développer des concepts de soirées drum and bass avec des invités anglais qui étaient vraiment les plus grands représentants de drum and bass à cette époque-là. Et donc ça a très vite marché. Donc le lieu s'est très vite fait connaître via ces soirées drum and bass, par exemple. Ça a bien fonctionné. Donc on a continué à développer cette formule de coproduction en faisant une sélection d'organisations qui étaient intéressantes au niveau clubbing, quoi. Au niveau de la musique électronique, on a un petit peu commencé avec la drum and bass, mais il y a eu aussi du raga, reggae, avec des soirées comme les soirées Bass Culture qui ont aussi très très bien fonctionné. Il y a eu aussi des soirées plus mélangées qui ont aussi fait connaître le lieu. C'était des soirées Next, des soirées plutôt qui venaient du milieu homo, mec et nana, qui mélangeaient voilà, les deux communautés, mais où le public hétéro était présent aussi. Donc ça, je pense que ces trois soirées-là, donc les soirées drum and bass, les soirées next, très très mélangées au niveau des musiques, et les soirées bass culture, ont vraiment été le départ de Recyclar au niveau de la musique, ont vraiment mis Recyclar sur la carte à Bruxelles comme lieu de soirée qui fonctionnait bien. Je trouve intéressant aussi pour Recyclar de parfois juste revenir à des bases et redonner la parole par exemple à des improvisateurs, parce que eux ils arrivent souvent à synthétiser ce qui se passe en fait, parce qu'ils utilisent, ils peuvent improviser avec de l'électronique. Il y a des musiciens aussi qui jouent un instrument comme une guitare ou une basse ou une batterie ou un saxophone ou un banjo. Et ils reviennent un petit peu aux racines de la musique, et donc ça j'ai toujours voulu donner une place à ça parce que je trouve que c'est important. Voilà, on n'est pas qu'un lieu branchouille, avec des soirées branchouilles, non, de temps en temps il y a vraiment des choses beaucoup plus libres, sans aucune référence, qui peuvent se dérouler ici.
Rencontre avec Cohn, artiste présent lors du CRAG Festival organisé au Recyclar, qui faisait la part belle aux musiques expérimentales.
Je vais sortir un album sur CRAG bientôt. Et c'était longtemps, mais j'ai déjà sorti 3 disques sur CRAG dans le passé. Donc ça c'est ma relation avec le label, en tout cas, et avec le festival aussi. J'ai joué dans différents projets... dans le passé aussi sur le festival. La première édition, c'était sur 3 différentes locations, même. C'était à Bruges, à Gand et à Hasselt, je pense. Et les années après ça, c'était à Hasselt toujours. Et donc, c'est juste les dernières 3 années, je pense que c'était à Bruxelles. Et le festival a évolué, surtout à ce niveau-là, mais musicalement, c'était toujours plus ou moins le même mix de noise et de free improv et de rock particulier et des autres choses, des trucs obscurs et uniques. Souvent aussi des premières pour la Belgique ou même pour l'Europe. C'est toujours dans l'esprit indépendant, l'esprit punk aussi. Mais punk dans le plus grand significance du mot. Des gens qui ont fait des trucs particuliers pour 2 années ou 30 années. Quand j'ai commencé à jouer la musique, j'avais 12 ans et j'avais une fascination pour la musique des synthétiseurs et la musique électronique. Mais c'était toujours très difficile pour accéder les machines analogues, les synthés vieux, parce que c'était, ouais, sont durs à trouver, sont chers et tout ça. Et maintenant, avec les plugins et avec le software, c'est possible d'accueillir toutes ces machines, quand même au niveau virtuel, mais c'est le même principe. Et donc, je peux maintenant expérimenter et jouer avec toutes ces machines analogues dont j'ai toujours rêvé. Donc c'est une vieille amour, une vieille passion que je peux récultiver comme ça.
Interview du fondateur du label Umbrella, alias Mary Poppins, qui ce soir-là présentait son nouveau projet en coproduction avec le Recyclar.
Pour cette première compile, j'ai compilé 17 artistes internationaux que j'ai choisis parmi tous mes amis musiciens. Et voilà, ce soir aussi, il y a des artistes étrangers qui sont là. Il y a aussi beaucoup de Bruxellois, des Gantois, des Flamands, des Wallons. Il y a un mélange de toute la Belgique et tout ce qu'il y a autour. L'idée, c'était quand même, l'idée du label s'est fait il y a quelques années. Enfin, en fait, déjà quand j'écoutais que de la musique, quand j'en faisais pas encore, je voulais un jour avoir une radio ou un label ou un magasin de disques. Et donc là, il y a 2-3 ans, je me suis mis à vraiment chercher des gens que j'aimais vraiment bien pour pouvoir les compiler. Et puis, là, il y en a 17. Et puis après, on va faire des sorties plus individuelles par artiste. On va essayer d'avoir tous les gens qui sont sur la compile, de pouvoir sortir un disque, mais ça c'est des plans de futur. En fait, le recyclage, j'ai travaillé pendant 8 ans derrière le bar et j'ai arrêté il y a 2 mois. Donc je me disais que ça serait idéal pour clôturer ma fin de saison au Recyclar ici, avec la sortie de l'album. Et comme le Recyclar est vraiment un super chouette lieu où j'ai passé des années derrière le bar ou dans le public, j'aime vraiment bien la salle, c'est bien situé et tout, et c'est un super endroit, donc voilà, c'était idéal pour pouvoir lancer cette première compile. J'espère aussi pour les prochaines releases, pour pouvoir venir ici au Recyclar, ou au moins à Bruxelles, dans un autre lieu équivalent, qui n'existe pas encore, mais qui existera peut-être dans quelques années. Enfin, comme à Bruxelles, il n'y a pas vraiment grand-chose, pas vraiment beaucoup de lieux. Enfin, il y en a beaucoup, mais bon, c'est des... Avec la nouvelle politique et tout, tout se ferme, tout se termine à 4h ou 5h. Et Recyclar, c'est quand même un lieu qui est tout le temps resté solide, avec une bonne infrastructure, une bonne programmation et tout. Donc, et Recyclar, c'est un endroit où la plupart des Bruxellois se trouvent, quoi. Et voilà, musicalement. L'accouchement de cette sortie était très, très dur. On a eu vraiment beaucoup de problèmes. Et bon, là maintenant, il est 1h du matin, il y a plein de gens et je suis assez content parce que voilà, quand même, avec la promo que j'ai fait pour une grande partie moi-même et tout ce qui a été autour, je suis quand même assez étonné de voir autant de monde et ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi déjà beaucoup de CD qui sont vendus, donc les gens, même si le CD est déjà un peu mort, les gens continuent à acheter des releases en CD parce que soutenir un label débutant. Et c'est chouette de voir ça, quoi, qu'il y a quand même encore, que ça bouge encore à Bruxelles et que c'est pas qu'un gros nom qui va ramener du monde, mais que tout un line-up ou toute une organisation derrière peut faire un truc pareil.
Donc, vous venez d'entendre un petit reportage sur le Recyclar avec, vous l'aurez compris, l'interview de Marc Jacobs en première partie, le programmateur du Recyclar, qui va bientôt partir d'ailleurs.
Oui.
Et Cohn, un musicien, et Harry Poppins, responsable du label Umbrella Delica. Quel lien vous voyez entre la création scénique et discographique, aujourd'hui aussi par le web? Harry Poppins nous parle de son nouveau label, de la sortie de CD, comment ça reste encore important, hein. Toi Philippe qui travaille dans une médiathèque, David aussi pour un label qui s'appelle Prohibited Records et dont on entend d'ailleurs l'extrait d'un nouvel album de Patton, l'extrait s'appelle Hélénique Chevaleresque Récital. Oui, en quoi vous voyez comment ce média encore CD et vinyle, je crois que vous aimez bien ces supports-là aussi. Comment ça, ça reste important pour la musique, pour qu'elle puisse aussi s'inscrire dans la durée. Quel rapport avec la scène on peut trouver?
Pour le public, en tout cas, soit ils sont complètement autistes, éparpillés chacun derrière leur coin, derrière leur ordinateur, et on peut ne pas sortir de chez soi et écouter plus de musique que jamais auparavant. Mais bon, il n'y a rien à faire malgré tout. La musique, ça reste un truc fait par des humains, des corps et tout ça. Et donc, à un moment, éteindre son ordinateur et aller voir d'autres humains, et en particulier ceux qui font cette musique, ça reste précieux, quoi. Et bon, c'était un peu, je sais pas, philosophique à deux balles ce que je viens de dire, mais au niveau même de la façon dont le disque continue à circuler, comme à la fois il y a de plus en plus, enfin au moins autant de disques qui se font qu'avant, voire de plus en plus, mais il y a moins de disquaires, moins de distributeurs, etc. Donc le fait de se procurer les disques au moment des concerts, je crois qu'il y a toute une série de gens, à la limite, ne vont plus chez les disquaires, et ça, c'est en partie triste aussi, mais bon, mais se retrouvent dans des contacts directs à la table où on vend les disques à la fin du concert, parce qu'à la limite, c'est le gars qui vient de jouer ou qui va jouer dans le concert suivant, qui les vend, et c'est moins personnel que dans une grande surface du disque, en tout cas, ou que par Internet.
Avec l'espèce de facilité avec laquelle on peut se procurer de la musique, et c'est vraiment une question de se procurer et de consommer de la musique aujourd'hui, le concert est clairement devenu le lieu où vont et où retrouver les gens qui aiment vraiment ça, quoi. Et que ce soit pour participer au concert, pour en faire, ou pour acheter des disques. Les gens qui aiment vraiment la musique aujourd'hui achètent leur disque au moment du concert parce que c'est le lieu qui reste, effectivement, c'est le dernier lieu où la musique est humaine et pas un fichier mal compressé que tu vas garder et puis pas écouter.
En même temps, on voit que ces lieux, je pense à des petits lieux de vente, par exemple celui qu'il y avait près du canal,
Le Bonheur,
ouais, qui vient de fermer pour faillite. Bon, la médiathèque.
Il y en a d'autres qui ouvrent.
Ouais. Oui, voilà, ouais, ça tourne. Hein.
Mais Bruxelles, après, puisque c'est comme de Bruxelles qu'on parle, et quand même, moi, je trouve Bruxelles, moi qui suis pas d'ici, qui suis pas depuis longtemps, je trouve Bruxelles très très riche en initiatives musicales. Quand même. Il y a vraiment plein de gens qui ont envie de faire des choses et qui se donnent les moyens de les faire, même si c'est pas toujours viable à super long terme. Que là, on a écouté le Recyclard, qui est quand même un des endroits les plus qu'il a depuis le plus longtemps, je pense.
Oui, c'est un endroit. Vous, quel rapport vous avez un peu?
Moi, j'ai programmé des concerts là au tout début. Et ça, c'est, pour moi, c'est un des points forts de Recycla. Pas du tout que j'ai programmé là-bas, mais je m'explique. Marc, il parle un peu de ça dans l'interview. Il y a des moments où je suis un peu pas à 100% d'accord avec lui, mais quand il parle des partenariats, et il y a eu une période au tout début de Recycla où le projet, c'était vraiment de rénover la gare pour en faire un lieu à la fois culturel et un lieu de formation professionnelle, de gens qui bossaient sur le chantier et qui étaient des gens en formation, en reconversion professionnelle, etc. Et donc tous les subsides, c'était beaucoup plus des subsides pour cette partie-là du projet, pas pour la programmation. Et il y avait une programmatrice avant Marc, à l'époque, qui, de son aveu même, ne s'y connaissait pas du tout en musique, venait plutôt de la danse, etc. Et elle a eu la bonne idée de... plutôt que de programmer elle-même maladroitement, je dirais, de la musique qu'elle ne maîtrisait pas, de programmer des programmateurs qui, eux, dans des zones particulières de tout le paysage musical, s'y connaissaient, avaient la passion, avaient les contacts, etc. Et même s'il est venu après quelqu'un qui aurait pu, à la limite, assumer tout seul la programmation musicale, ils ont continué quand même à jouer la carte des partenariats et à ouvrir comme ça leur programmation. Et ça, pour moi, c'est un des points forts de Recycler.
Les coproductions.
Sinon, on court le risque de... Enfin, pour une salle qui a quand même une certaine taille, qui a de l'argent public, etc., ben, il n'y a pas vraiment de raison que ça n'aille que dans un sens, que ce soit juste une personne qui se fasse plaisir, quoi.
Et lui, il nous explique aussi que pour lui, les subsides, ça a été une manière d'ouvrir sa programmation, aussi d'aider à la professionnalisation, de développer des musiques qui sont moins diffusées ailleurs, c'est-à-dire des grosses soirées aussi permettent de pouvoir financer des projets plus pointus. Et c'est ce que permettent aussi les subsides publics. Donc, je ne sais pas comment fonctionnent les ateliers Klaus à Saint-Gilles, David. Mais vous, je pense... Enfin, donc, les ateliers Klaus, déjà, est-ce que tu peux nous parler du projet un peu? C'est assez particulier, c'est dans l'appartement de...
Ouais, enfin, non, c'est un peu plus que l'appartement, mais ouais, en deux mots, on peut dire c'est
le lieu de vie de Franz Klaus.
C'était complètement un lieu de vie, et les deux étages où se passent maintenant les concerts étaient l'atelier de Franz Klaus qui a monté la salle il y a 3 ans maintenant, et effectivement, les deux derniers étages sont restés son appartement. Mais bon, le rez-de-chaussée et le premier étage ont clairement été transformés en salle de concert. On n'a pas non plus le sentiment d'être chez quelqu'un. Ça se veut vraiment une salle de concert quand même. Et le projet, c'est ça. Clairement, les ateliers Klaus, ça marche pour l'instant. Et voilà, une de mes missions là-bas, c'est de modifier un peu ça. Mais ça marche pour l'instant que sur l'argent privé. Donc c'est vraiment du système de mécénat. C'est vraiment l'idée de quelqu'un qui a les moyens de faire vivre une salle, de payer correctement les groupes, de donner un son qui est correct aussi, parce que c'est quand même une qualité sonore qui est plutôt pas mal pour une salle de cette taille, les ateliers. Et voilà, c'est vraiment l'idée de une idée généreuse, après un peu compliquée, d'être mécène de la musique à Bruxelles.
Donc c'est une volonté de vivre sans subside public aussi par rapport...
Non, c'est pas une volonté, c'est pas une volonté à long terme. Ça a commencé comme ça parce qu'il y avait le moyen de commencer comme ça, mais il y a aucun refus de subside public. Je suis en train d'en demander, on en demande, mais sur des projets ponctuels. On va faire des dimanches après-midi pour les enfants, de musique pour les enfants. Et ça, c'est un projet sur lequel je pense que la commune peut nous aider, par exemple.
Autre lieu qui vit pour l'instant par ses propres moyens, le coiffure Liliane. On est allé rencontrer les gens motivés qui tiennent ce lieu-là, le public et les musiciens. C'est un reportage qui a été réalisé par Sébastien Godard et Aurélien Dupuis.
On est au cœur du quartier des Marolles, au centre Bruegel. C'est coiffure Liliane.
Bonjour Liliane, allez faire une petite coupe à 10h du soir, ça me va. En plus, il y a de la musique, pour un peu quoi. Il y avait des énormes machines comme aux années 70 avec sur les cheveux là, des bonnes femmes brushing et tout. Il y a toujours des dreads, des barbus, des piercings et des lunettes, des chaussures rouges. Non, il y a un peu de tout quoi.
Je sais pas, ça fait partie comme un peu de ce que c'était les Marolles avant, non? Un peu plus alternatif, bohémie. Enfin, maintenant, il y a plein de gens qui viennent dans les quartiers comme chose touristique.
Rencontre avec Antoine et Anne qui ont connu le projet depuis le début.
On a commencé le projet dans un local pas loin d'ici, au Marolles, qui était un ancien salon de coiffure et c'était marqué sur la vitrine Coiffure Liliane. Et donc on a décidé de commencer ce projet et le nom était tout trouvé. Voilà.
En fait, on voulait surtout créer un endroit convivial, disons, où boire un verre, écouter de la bonne musique, papoter tranquillement. Et donc on a eu envie, et manger aussi. Donc comme on est très gourmand et très hédoniste, mais voilà, on s'est un peu lancé comme ça sans trop réfléchir et on est toujours là, 9 ans plus tard.
Comment vous faites pour avoir des concerts toujours gratuits? Parce que c'est pas évident, il y a tout le monde un petit peu qui demande des sous, les groupes, le matériel, etc. Enfin, c'est assez rare d'arriver à ça.
Mais je pense qu'en fait, il y a le bouche à oreille qui a fait énormément. Donc, il y a beaucoup de groupes aussi qui veulent tester des nouveaux morceaux, leur nouvel album. Et en fait, apparemment, ce que beaucoup de musiciens me disent, c'est qu'il manque cruellement de petites scènes, justement, qu'elles soient alternatives ou non, où on puisse tester en fait. Comme je l'ai dit, donc un nouvel album, des nouveaux morceaux, voire des jams ou des... toutes sortes de choses, disons. Et donc, curieusement, il y a quand même énormément de groupes qui nous appellent. Et donc, en fait, c'est pas tellement compliqué, entre guillemets.
Oui, pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui se proposent spontanément. Mais parfois, j'ai déjà été demandé à des groupes, leur expliquer le truc, et alors ils veulent pas parce que c'est pas payé. Donc en fait, quand on va chercher des gens et qu'on leur demande de jouer gratos, ils veulent pas, ce que je comprends tout à fait. Par contre là, c'est plutôt les groupes qui viennent nous chercher pour jouer chez eux. Enfin, chez nous, pardon. C'est joli. On offre des bières, on compte pas trop. Sauf s'il y a vraiment de la pub. Et donc les gens se sentent bien accueillis et ils sont contents de venir et ils aiment bien revenir.
Kevin, chanteur de The Whale.
Pour l'instant, je me consacre surtout donc à ce groupe et puis à un projet en français qui s'appelle Minuica, mais que j'ai pas encore du tout. Qui est encore vraiment au balbutiement. Pour être honnête, j'aimerais aussi pouvoir payer ma bouffe avec ça, quoi. Ce serait l'objectif. Disons que je pourrais me reposer là-dessus, ça me ferait du bien. Là, je me donne, je dirais, un an ou deux encore pour voir si c'est possible.
Des liens avec d'autres salles ou d'autres associations. Enfin, vous parlez beaucoup de collectifs et c'est vrai qu'il y a des choses qui se développent à Bruxelles, comme le Nova, comme la RTT, etc. Est-ce que c'est tout un mouvement organisé? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que comment ça fonctionne tout ça? Et c'est quoi la philosophie qu'il y a là derrière?
Non, je pense, en fait, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais nous, on a beaucoup de contacts, notamment au sein du Nova, mais je pense que ce sont des projets complètement différents. Donc, le Nova, c'est un cinéma, déjà, à la base, donc, c'est principalement un cinéma. Et, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, mais c'est clair que ce sont des endroits qu'on fréquente beaucoup, que ce soit RTT, que ce soit Nova, d'autres lieux, comme le 123 ou plein d'autres lieux où c'est sûr, nous on va également boire notre verre là-bas, on va écouter les concerts, on va voir ce que font les copains en fait. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Parfois, de temps en temps, avec le Dada, en fait, il y a des groupes qui font une micro-tournée, disons, sur Bruxelles. Alors, ils font donc Coiffure Liliane, le Dada, puis voilà. C'est plus à ce niveau-là. Parfois, bon, on s'appelle, on se dit, voilà, tel groupe voudrait passer, avoir une autre date. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, c'est plus à ce niveau-là, mais pas plus, je pense.
La deuxième partie de la question, c'est que vous parlez beaucoup de collectifs, etc. Et, est-ce que vous, Coiffure Liliane, c'est votre travail, votre vie, c'est quoi? C'est un hobby?
C'est notre bébé. Voilà, c'est notre bébé en fait, oui. Non, c'est pas notre travail, c'est pas notre vie, c'est quelque chose qui est en plus, c'est un peu comme une excroissance comme ça.
C'est un genre de hobby, on fait ça bénévolement, ça nous prend une journée par semaine, une soirée par semaine, plus de temps en temps. Une journée par mois pour aller faire les courses et tout ça. Voilà, donc ça nous prend un petit peu de temps, mais finalement pas trop. Enfin, si, quand même beaucoup de téléphones et d'internet pour contacter les groupes et tout ça.
Il y a un mode de fonctionnement particulier? Vous avez des réunions? Ou est-ce qu'on rentre dans le groupe comme on veut? Je peux poser ma candidature via le site internet ou,
En fait, il n'y a pas de candidature, donc c'est un peu, s'il y a des gens qui sont intéressés. Généralement, comme c'est bénévole et tout, c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde de s'impliquer sur le long terme. Bon, on a beaucoup d'aides ponctuelles, d'amis. Joël, je vais le citer, ça lui fera plaisir notamment. Il vient très très souvent nous aider. Et d'autres gens, il y a eu par exemple Cosimo aussi qui nous a aidés pendant énormément d'années, qui était programmateur, même directeur artistique, on dira, ça lui fera plaisir aussi. C'est un groupe, donc c'est à la base c'est un groupe d'amis déjà, donc ça joue beaucoup, quoi. Donc il n'y a pas de hiérarchie, des réunions il y en a le moins possible, dirons-nous. Ouais, enfin il y a des réunions de façon informelle, parce que comme on est amis, donc forcément on se voit.
Réunions, on bouffe.
Voilà, d'abord on mange, donc quand on fait une réunion, c'est surtout pour d'abord bien manger. Et donc et puis on discute des problèmes s'il y en a. Et si les gens sont intéressés de venir donner un petit coup de main, ils sont les bienvenus.
Donc on voit bien avec ce petit reportage sur Coiffure Liliane comment des personnes prennent l'initiative comme ça spontanément aussi simplement pour qu'on puisse aller écouter des musiques là c'est une salle privée, souvent c'est des salles au public plus trop restreint parce que ça fonctionne souvent par le bouche à oreille, par le mailing. Que ce soit aux ateliers Klaus, à la filature, chez Chip. Ce développement de toutes ces initiatives, vous le rapprocheriez à quoi? Est-ce que c'est lié, par exemple, au nombre croissant de groupes?
En tout cas, c'est signe d'un besoin, c'est clair. Mmh. C'est vraiment... Il y a eu un moment à Bruxelles où c'était très compliqué de trouver un endroit où jouer pour les groupes, il me semble. Tu verras si je me trompe. Et là, il y a de plus en plus de possibilités pour eux, je pense. Ça devient assez, j'ai l'impression que ça devient assez faisable quand t'as un groupe et que tu veux vraiment jouer, de trouver un endroit où le faire maintenant.
Même si c'est gratuitement pour commencer.
Il reste quand même un problème, je pense, pour les trucs très, très bruyants, quoi.
Oui.
Il y a le gros manque, mais bon, qui va être comblé à l'automne, mais de la disparition du magasin 4.
Ouais.
Donc pour tout ce qui est rock, musique amplifiée, bien amplifié, musique à bouchons dans les oreilles. Mmh. Pendant le temps, je sais pas bien, les 2 ans à peu près, c'est au pif, c'est peut-être 1 an et demi, c'est peut-être 2 ans et demi, mais où ils n'ont pas été là, toute une série des autres lieux étaient trop fragiles au niveau du voisinage, du son, et n'ont pas pu vraiment. Enfin, le Dada un peu, donc à ce niveau-là, il y a eu un manque. Mais je crois que la prolifération de toutes ces petites initiatives, elle vient de. Aussi du fait que les gros mastodontes subsidiés, beaucoup plus que Recyclard, de la programmation de concerts à Bruxelles, donc le Botanique du côté francophone et l'ancienne Belgique du côté néerlandophone, prennent très très peu de risques et font une espèce de programmation éclectique et grand public, enfin, éventuellement pour des niches, mais pour de gens qui ont déjà un certain statut. Dont ils sont quasi sûrs qu'ils vont remplir la salle, soit parce que c'est connu depuis des années, soit parce que c'est hype et que tout le monde en parle pendant 6 mois, quitte à ce qu'on oublie dans 2 ans. Mmh. Et donc, il y a peu de prise de risque quoi, à ce niveau-là.
Je ferai juste une parenthèse sur ça. Dans ces deux salles, il y a de temps en temps des prises de risque sur lesquelles ils ne font absolument aucune communication, que ce soit dans le box à l'ancienne Belgique ou dans la rotonde au Bota. Il y a de temps en temps des choses méconnues, ou comme Patton qu'on a écouté tout à l'heure, qui sont un peu risquées, mais sur lesquelles les salles ne communiquent absolument pas. Voilà, c'était juste une parenthèse.
Et aussi, c'est perdu dans un espèce d'éclectisme qui n'a pas de saveur, pas de goût, pas de personnalité.
Oui, y a
et ça, je crois que c'est l'autre élément pourquoi ces petites initiatives prolifèrent, c'est que les gens, enfin, économiquement, les gens n'ont pas spécialement envie de payer 15€, 18€ plus ou ne fût-ce que 12 pour un concert, enfin, suivant les cas, pour un concert, plus les consommations au même tarif proportionnel. Donc, ça, c'est très matériel. Mais même...
C'est certainement pas les mêmes publics aussi qui vont à la BO au Bota et à la Compilothèque et au RTT.
Non, mais je pense que ce que Philippe allait dire, c'est que les gens qui vont à la RTT, Coiffure Liliane et tout ça, ils y vont aussi pour retrouver la personnalité de quelqu'un qui programme le groupe. Et que peut-être que s'il y avait un programmateur qui faisait preuve de personnalité à la BO au Bota, peut-être qu'on irait.
J'ai même envie de dire la personnalité de la personne qui te sert ta bière derrière le bar.
Ouais.
Parce que, disons, dans les grandes salles, on est des clients, quoi. On est des consommateurs et les gens qui sont là sont salariés, travaillent. Il y a moyen de travailler en étant agréable et en sachant pourquoi on est là, etc. Ouais. Mais donc, je ne suis pas à 100% dans tous les cas contre les subsides et tout. Enfin, professionnellement, je travaille dans un truc super subsidié aussi, mais souvent...
Mais où il y a une proximité aussi, ouais, non ? Il y a vraiment moyen de discuter aussi avec les disquaires et sur ce qui sort, enfin...
Mais en tout cas, dans les petites initiatives, on sent que les gens, ils programment ce qui est programmé parce qu'ils le veulent, ils aiment bien ça, ça les fait vibrer, ils ont envie de partager, quoi. C'est la notion de partage, en fait, qui est beaucoup plus en avant là que de remplir une sorte de contrat-programme où on s'est engagé à X concerts par an.
Il y a la notion d'être une salle marchande dont parlait Marc. Il y a un moment le fait de devoir faire rentrer de l'argent qui, à mon avis, même quand t'as la plus grande envie de partage du monde, il y a un moment où c'est plus possible si ta mission c'est de remplir un tiroir caisse. Enfin, ça devient en tout cas plus compliqué.
Et Philippe, tu parlais de proximité. C'est vrai que je pense à un festival, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Living Room, qui est organisé par Musique Publique chez les gens, en fait. Ils font un appel. Si tu habites à Etterbeek, cette année-ci, le festival sera organisé là-bas. Tout le monde, on peut proposer sa maison. son appart pour des concerts. Et il me semble que les choses vont par là aussi, quoi, d'être chez les gens, d'être accueilli, que ça correspond aussi à des nouveaux types de salles.
Moi, je crois que c'est très, très positif si ça se rajoute au reste. Si
ça vient pas si pallier seulement.
Si c'est une couche en plus, si on enlève tout le reste et qu'il n'y a plus que ça, il y aura d'autres manques, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de subventions, etc. Je crois que pour les musiciens, moi, je connais toute une série de musiciens qui, généralement, enfin, ceux auxquels je pense, qui ne sont pas nécessairement européens, qui sont américains ou autres, ils viennent en tournée en Europe et dans leur tournée, les dates ne sont pas du tout toutes sur le même niveau et toutes dans le même contexte. Et donc, ils peuvent être payés, on va dire, honnêtement, raisonnablement, bon, je veux dire, entre, je sais pas, 150 et 200, 300 euros, toute une série des soirées de la tournée, et puis être mal payés parce que c'est un day off rempli un peu à la dernière minute, etc., ou un concert chez un disquaire pas payé tel jour, et puis avoir une ou deux dates sur la tournée qui sont là beaucoup mieux payées et qui financent le reste possible. Ouais. Des musiciens qui ont une date aux Beaux-Arts, par exemple, plutôt liée au cinéma et tout ça, parce qu'il y a plein de liens musique-cinéma aux Beaux-Arts, où là, ils peuvent se permettre de bien payer le groupe, et ça permet au groupe de jouer à Cologne, à Amsterdam, à La Haye, à Bordeaux et à Grenoble en même temps. Enfin, et donc, je crois que si toutes ces échelles s'imbriquent, c'est ce qu'il y a de plus positif pour la musique, quoi.
Et ça implique des choses comme, enfin, tu parles des Beaux-Arts par exemple, où c'est Xavier Garcia qui programme. Tout ça implique en fait des espèces de trucs d'entrisme. Quand on disait tout à l'heure que à la baie au Botta, enfin quand je disais que à la baie au Botta, c'était peut-être possible d'avoir un effet de proximité, c'est juste une question de le vouloir. Il y a des institutions dans lesquelles il y a des programmateurs intéressants qui font jouer les gens qui iront dans ton salon jouer, mais qui les font jouer dans une institution qui a les moyens de mieux les payer. Et ça, c'est important aussi, qu'il y ait toujours des gens qui aient cette culture underground, mais qui sachent en faire profiter des institutions qui ont plus de moyens.
Pour continuer sur les salles un peu alternatives dans le quartier des Marolles, mais aussi dans Bruxelles, qui nous semble représentative aussi d'autres lieux à Bruxelles, on va vous parler du Steker La Patte. Qui est une initiative donc, qui, à la base, est un restaurant. Après le coiffure Liliane, qui était un salon de coiffure, nous voici au-dessus d'un resto, au Steker La Patte, petit lieu intime où Yvan Tirsio, le programmateur qui lui-même est musicien, tente de faire découvrir d'autres groupes au public bruxellois. On écoute ce reportage réalisé par Aymeric Lehambre, Sébastien Godard et Aurélien Dupuis.
Ok, c'est bon, c'est parti, c'est lancé.
Je crois que c'est quelque chose de parallèle à la musique de masse et de les grosses scènes. C'est quelque chose. J'ai pas l'impression que ce soit en déclin, mais disons c'est une évolution parallèle. C'est un autre moyen d'expression. C'est pas la même intention. Je trouve que c'est chouette d'avoir des petits lieux, mais qui soient pas vraiment un bar où tout le monde est en train de parler et picoler. Il y a beaucoup de bruit. Là, c'est vraiment, ça reste quand même un concert où t'es assis et t'es là juste vraiment pour écouter la musique. Thank you.
Técœur la Patte, donc. Hein,
ce Técœur la Patte.
Au lieu de Bruxelles, où depuis peu, tu nous fais une programmation un petit peu particulière et qui est proche de tes goûts, donc, en somme.
Ben oui, j'essaie de défendre un maximum de choses, vu que j'ai des goûts très éclectiques et que j'aime beaucoup de choses. Ici, on passe toutes sortes de musiques. Et ça va de la chanson au jazz, à la pop, au rock, au folk, musique du monde, cabaret, voilà.
Alors, un petit mot peut-être sur le projet, là, comment il s'est élaboré. Bon, enfin, c'est peut-être tout con, mais en même temps, voilà, c'est comme des projets qui tournent. Il y a quand même une petite étincelle, comme ça, un lieu libre, ici, au-dessus d'un restaurant, un passeron qui te dit... qui te connaît peut-être à la base, je sais pas.
Bon, c'est une question de circonstance. Le patron m'a appelé. Il a eu mon numéro par le conseil de la musique. À la base, il voulait que je joue parce que je suis avant tout musicien. Chaque semaine, et puis je me suis occupé de la programmation. C'était justement une période où j'avais envie de faire jouer des gens que je rencontre. Et que je cherchais un lieu, et voilà, ça m'est tombé dessus. Puis quoi, moi j'aime bien les musiques dans toutes les langues, enfin de plusieurs endroits, des projets pas forcément aboutis, mais qui démarrent, et d'ailleurs qui ont besoin d'endroits comme celui-là pour démarrer. Voilà, j'aime beaucoup de styles. Le cabaret aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La chanson, avec là-dedans aussi hein, des choix en fonction de mes goûts et de mes rencontres. Voilà.
Attirer les musiciens.
Non, c'est clair que l'accueil dans un lieu, l'accueil fait énormément. Je veux dire, comment le musicien est reçu, ça fait énormément. L'inverse peut vraiment faire couler un lieu, même si toutes les conditions sont là, et je le sais parce que moi-même, parfois, des endroits où t'es pas bien accueilli, tu joues moins bien, quoi.
Que la Belgique ou Bruxelles, c'est vraiment un petit paradis. Il y a vraiment plein de bonnes choses. Simplement, c'est très petit. Et je trouve enfin, moi, j'ai eu besoin de beaucoup voyager pour pouvoir rassembler des choses. Et puis après revenir ici. Mais je sentais vraiment un appel, etc. Pour les musiques à racines afro-américaines, pour le dire comme ça. Et donc j'ai eu besoin de voyager. Maintenant je reviens ici et je peux un peu donner tout ce que j'ai rassemblé. Mais Bruxelles était un peu pour moi, hein, ça n'engage que moi ceci, mais était un peu petite que pour vraiment uniquement rester ici et grandir ici quoi. C'est un super endroit. Être belge en général, c'est génial. Si on a l'occasion de voyager, pour moi. Si on reste tout le temps coincé ici, c'est un peu petit, quoi. Il y a plein de bonnes choses. Hein. Il y a un bon esprit, il y a une bonne mentalité, il y a quelque chose de vrai, je trouve, chez les gens. Dans les années 90, il y a eu le CAI, qui est un endroit super, où il y avait un très bon esprit et plein de choses très créatives qui s'y passaient. Il y a un club qui passe un peu les décennies comme ça, qui est le Sounds, que j'aime bien, parce que je trouve que le Sergio est un chouette gars, il y a des chouettes musiques, la programmation est... il y a des hauts et des bas, mais un bon esprit. Je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit en particulier. C'est ça, en fait, c'est aussi une des particularités de Bruxelles, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de choses un peu underground, comme ça. Tu vois, donc par exemple, cet endroit-ci, je ne connaissais pas. Mais ce soir, il s'est passé un chouette truc, quoi. Il y a une chouette salle, il y a une chouette ambiance, très intime, il y avait un chouette public, et de nouveau, c'est underground, quoi. C'est pas un truc hyper promotionné, c'est pas un truc que tout le monde connaît. Voilà, donc c'est toujours un peu comme ça pour moi que ça se passe à Bruxelles. C'est plus un peu des coups de hasard, quoi.
C'est quelqu'un que je connais et j'admire depuis longtemps. C'était un super concert.
Donc, dans ce reportage au Steaker La Patte, vous avez pu entendre Yvan Tirsio, le gérant du lieu, et Nicolas Theis, chanteur qu'on a eu aussi en interview. Souvent, on associe ce terme là, de musique urbaine, aussi peut-être plus en France, à la musique amplifiée. Mais j'ai l'impression aussi que dans toutes ces petites salles, c'est beaucoup l'acoustique qui est mis à l'honneur. Tout à l'heure aussi, on parlait des one-man show, des one-man...
One-man band, ouais.
Oui, one-man band. Donc c'est ces hommes qui ont plein d'instruments. Est-ce que vous le sentez, ce retour à l'acoustique aujourd'hui, aussi dans les salles?
Moi, je le sens, mais je le sens particulièrement à Bruxelles. Quand je vais ailleurs, je trouve que... Enfin, par rapport... Philippe, tout à l'heure, parlait du manque de représentation des musiques très amplifiées, comme il disait. Et moi, je souffre un peu à Bruxelles du manque de présentation des musiques électroniques qui ne soient pas des musiques de club. Vraiment, en musique électronique, ce que moi j'appelle les gens qui bidouillent un peu, il y a peu de gens. Il y a le label Pneu qui organise des soirées pas l'échalé, qui fait des choses très bien en musique électronique comme ça, mais à part ça, il y a un manque, pardon, mais je suis trop long.
Non, pas de problème. Maintenant, il y a les Siesta Sessions le dimanche aux Ateliers Klaus. Oui.
Et le vendredi sur Radio Panique.
Et le vendredi, c'est de 17 à 18 sur Panique.
Ouais, ça va diffuser.
Et donc ça, pareil, c'est une initiative que tu as créée parce que tu as senti ce manque.
C'était une façon de répondre, encore une fois, ce que disait Philippe tout à l'heure, au problème de son qu'il y a dans les lieux. Donc du coup, organiser des concerts plutôt l'après-midi et plutôt des musiques plutôt calmes. Et effectivement, c'est souvent de la musique, cette fois plutôt électro-acoustique qu'électronique. Ouais.
Ouais.
Et le prochain, c'est le 7 juin, c'est Mélissa Saint-Pierre, ce sera merveilleux.
Et donc là, ça s'arrête pendant l'été, mais le projet continue, donc la saison
prochaine. À la rentrée,
prochaine,
avec en plus des siestas sessions spéciales enfants.
Donc, espérons soutenu par la commune de Saint-Gilles.
Espérons.
Dans musique urbaine, on avait envie de parler de termes d'esthétique et de courants moins présents dans les médias, comme le punk, la musique improvisée, le hip-hop belge. C'est souvent des genres qu'on entend plus dans les médias indépendants, comme sur Radio Panique, mais aussi qu'on peut découvrir à la médiathèque. Et c'est ces médias-là qui valorisent ces musiques et leurs découvertes comme ces lieux. Mais c'est l'UINES, il y en a d'autres qui ferment. Là, le magasin 4 dont tu parlais a fermé il y a quelques mois pour cause de spéculation immobilière, on peut dire ça, espérons qu'il va réouvrir.
Le chip dont on a parlé tout à l'heure est en danger.
Et aussi ouais. Et voilà, on sent qu'à Bruxelles, il y a ce monde musical constamment en mouvement. Quel bilan vous feriez où on en est dans le mouvement aujourd'hui des musiques urbaines à Bruxelles?
La question piège.
Moi,
l'impression que j'ai, c'est que effectivement, ça bouge et ça prolifère et on peut pas exactement prédire l'avenir. Juste une petite remarque, c'est que c'est plein de lieux qui coexistent dans la ville, qui ont quand même chacun plutôt leur public qui se mélange de temps en temps, mais je connais personne à Bruxelles qui 7 jours sur 7 va dans tous ces lieux, quoi. Donc c'est des choses qui se recouvrent un peu, qui restent quand même assez cloisonnées par rapport au goût, aux styles musicaux. Ouais. Donc faut pas non plus se faire croire que cette espèce de village merveilleux où tout le monde adore
tout le monde.
Où tout le monde adore tout le monde et super ouvert, quoi. Mais je crois que il y a d'autres lieux qui vont ouvrir, etc. On parlait du skip tout à l'heure. Je sais que Maxime de Matamor et du Chip, donc là c'est vraiment son salon. Si jamais il arrête là, il est un peu forcé d'arrêter là, mais il est déjà en train de réfléchir à rebondir ailleurs. Il y aura peut-être, comme avec le magasin 4, une période où il n'y aura rien, mais ça renaîtra dans 6 mois, dans un an et demi ailleurs, si jamais. Donc voilà.
Tous ces endroits-là sont menés par des gens qui ont besoin de toute façon de faire ça, donc, qui de toute façon trouveront un moyen de le faire d'une façon ou d'une autre. Quoi.
Comme les musiciens ont besoin de faire de la musique, les mélomanes...
Nous, on a besoin d'aider les musiciens à faire de la musique, que ce soit du disque ou du concert. Ouais.
Mais merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième émission autour des musiques urbaines, qui a pu être réalisée grâce à Alter Musica et à l'émission J-Boutique, que vous pouvez écouter tous les samedis sur Panique de midi à 13h, et dont l'initiateur et le fondateur était à la technique aujourd'hui. Merci Aymeric.
Salut.
Donc, à bientôt dans les lieux bruxellois.